Bon, là, vous êtes nombreux à m'indiquer que la balle d'argent, c'est pour tuer le loup-garou. Puis dans le cas du vampire, lui, c'est le pieu de bois qu'il faut lui planter au cœur. J'imagine que quand c'est un crucifix en bois, ça doit être encore plus létal. Fait que je prends bonne note. Merci de faire mon éducation en matière de loup-garou et de vampire. Bon, très bien. Alors, j'ai un sourire dans la voix, hein, vous l'entendez, parce que, écoutez-moi, la balle d'argent, il me semble que j'avais vu ça, moi, dans un film d'horreur, là, les 24 heures du 10 dans le temps, là, mais bon, je me fie sur vous, parce que vous êtes très nombreux à m'en faire le reproche. Très bien, très bien. Parlons d'une belle histoire. Une très belle histoire, c'est celle que nous raconte Catherine Hanfield aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de deux familles qui sont allées adopter. Dans un cas, ils sont allés adopter Diamondra. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Diamondra, qui est une petite fille de Madagascar. Donc, ils sont allés la chercher au Madagascar. Et il y a aussi l'histoire d'Anne-Marie Morel avec son conjoint François. Ils avaient déjà deux enfants. Et là, ils sont allés chercher Liam, L-I-A-M, aux Philippines. Anne-Marie Morel est au bout du fil. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour, M. Drainville.
Et vous êtes aussi, il faut le dire, la présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec, n'est-ce pas?
Exactement. J'ai cette chance-là de représenter plus de 500 parents.
Bravo. Alors, racontez-nous un petit peu l'aventure d'aller adopter un enfant aux Philippines et de le ramener ici au Québec en temps de pandémie. Ça ne doit pas être évident.
Non, tout à fait. Hein. Adopter à l'étranger, c'est toujours une aventure, c'est l'aventure d'une vie. Mais partir à la rencontre de son enfant en temps de pandémie, on est ailleurs. Hein. Donc, on avait des grandes restrictions, évidemment. Donc, le masque et la visière en tout temps là, dans l'avion. Lorsqu'on arrivait sur place, on était tout de suite pris en charge pour être testé au niveau de la COVID, par la suite déplacé. On n'avait pas le droit de se déplacer librement dans le pays. Donc, on est vraiment escorté d'un point à l'autre pour pouvoir finalement rejoindre notre enfant, des certificats de police. Donc, énormément d'étapes supplémentaires qui s'ajoutent à un voyage traditionnel là, d'adoption.
Est-ce que c'était la première fois que vous adoptiez?
Non, je suis déjà allée aux Philippines il y a 10 ans pour ma grande fille. Donc, c'était mon deuxième voyage dans mon cas. Mais là, cette fois-ci, c'était très différent puisque j'ai dû partir toute seule. L'incertitude de la pandémie faisait en sorte qu'on savait pas combien de quarantaines on aurait à faire là-bas. Puis comme j'ai d'autres enfants ici, on pouvait pas les laisser. Ça ne sent pas si on aurait une quarantaine ici, là-bas, etc., les écoles.
OK, fait que voilà. Les deux plus vieux sont restés avec papa François.
Exactement.
Puis vous êtes allé chercher Liam. Il avait quel âge, Liam, quand vous êtes allé chercher aux Philippines?
Il allait avoir 3 ans. Donc, okay. On était à quelques semaines de son 3 ans.
OK. Décrivez pour les gens qui nous écoutent ce que c'est que d'adopter un enfant à l'international, toute la problématique de l'attachement, notamment. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, Anne-Marie, mais nous, Martine et moi, on a eu deux enfants bio, Lambert et Rosalie. Et on en voulait trois. Martine a fait une fausse couche, donc on a perdu le troisième. Et à partir de ce moment-là, la nature avait donné ce qu'elle avait à donner. Et donc, on a essayé d'adopter au Mexique quand on habitait là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, on a adopté Mathis en Corée du Sud. Et c'est le plus beau cadeau de qu'on ne pouvait pas avoir de la vie. Là. Puis on l'aime d'amour profond. Là. Puis on est content. Ça se passe plutôt bien avec les défis qui viennent avec l'adoption et notamment le défi de l'attachement. Là. Tu sais, par exemple, moi, j'ai été capable de bercer Lambert et Rosalie quand ils étaient bébés, mais Mathis, ça a toujours été difficile de le bercer parce qu'il me repoussait. Là. Tu sais, il fait pas confiance aux adultes et tout ça. Puis ce lien-là, ça a été difficile de le créer. Je pense qu'on y est arrivé. Mathis, il a aujourd'hui 17 ans. Et puis, je pense qu'on a réussi à créer ce lien-là. Mais c'est pas évident de créer un lien d'attachement avec un enfant qui a été abandonné par les adultes et en particulier abandonné par sa maman.
Tout à fait. Puis c'était, en fait, quand je suis partie toute seule, c'était probablement ma plus grande crainte parce que je savais que mon fils aurait connu plusieurs femmes dans sa vie qui laissaient qui avaient dû l'abandonner ou le laisser partir. Et puis là, j'arrivais, moi, comme nouvelle femme avec une couleur, une odeur qu'il connaissait pas, une voix qu'il connaissait pas. Donc, je savais très bien que mon fils aurait pu me rejeter de façon importante. Mm-hmm. Évidemment, lorsque on s'est rencontrés, la pandémie n'aidant pas, je ne pouvais pas me présenter directement à son orphelinat, donc c'était dans une salle d'hôtel, ils me l'ont laissé moins de 30 minutes, tout le monde était parti, alors évidemment le petit était en choc terrible, et c'était un peu la même façon aussi dans l'histoire de Léa et Julien qui étaient rapportés dans la presse, donc ils ont eu très très peu de temps pour s'acclimater, puis l'enfant nous a été laissé dans ce contexte-là. Donc, l'enfant, c'est sûr, il réagit, il est en crise, donne des coups dans la porte, veut sortir de l'hôtel, et moi, je devais l'amener en avion à nouveau pour revenir à la capitale. Donc, c'est sûr que c'est un moment très intense, puis par la suite, petit à petit, on essaie de répondre à leurs besoins. C'est vraiment ça qui va créer l'attachement, donc d'aller répondre à tous ses besoins de base. Lorsqu'il appelle, on doit être présent, on doit le faire avec tendresse, comme avec un bébé naissant, en fait. On repart à zéro.
Comment ça se passe avec lui? Est-ce que par exemple, il accepte que vous le preniez dans vos bras? Est-ce qu'il accepte de se faire donner de l'affection?
Oui, actuellement, je suis très, très chanceuse. Là. Je sais que c'est pas le cas de toutes les familles. C'est un petit coco qui est quand même très affectueux. Ça a pris on a été enfermés, en fait, complètement à l'hôtel aux Philippines avant d'avoir un vol de retour. Donc, on était enfermés dans une chambre pendant 8 jours, juste tous les deux. Donc, c'est sûr qu'il y a plus ou moins eu le choix de créer un certain lien. Mais j'ai beaucoup de chance. C'est un petit garçon qui accepte quand même l'affection. Il y a des enfants qui vont même pas accepter de regarder leurs parents dans les yeux pendant un an. Donc ça dépend vraiment des situations, là.
Il y en a beaucoup moins d'adoptions internationales qu'il y en avait auparavant, Anne-Marie. Est-ce que c'est lié à quoi, ça? C'est des pays qui, auparavant, étaient ouverts à l'adoption internationale puis ont refermé leurs portes, comme la Corée, si je ne m'abuse. Je pense qu'elle est fermée maintenant à l'adoption internationale. Je pense que ce n'est plus possible d'adopter des enfants de Corée. Corrigez-moi si je me trompe. Et je pense qu'il y a d'autres pays comme ça, hein, qui permettaient à des couples d'ici, ou même à des, dans certains cas, c'est seulement un adulte, un papa ou une maman, d'adopter. Et là, dans bien des pays, c'est maintenant impossible, c'est ça?
Oui, bien, en fait, en Corée, il y en a encore, mais il y a des pays qui vont ouvrir quelque temps, fermer quelque temps aussi, tout dépendant là, des réalités. C'est souvent lié à la réalité économique du pays. Donc, on essaie toujours que l'enfant soit réadopté localement par des gens qui lui ressemblent dans sa culture. Oui. Et les enfants qui sont proposés à l'adoption internationale, c'est des enfants qui n'ont pas du tout eu la chance d'être adoptés dans leur propre pays, dans leur propre culture. Alors là, on les propose à l'étranger. Donc, en fonction des besoins des différents pays, c'est là où on va voir des pays qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer à l'adoption. S'il y a plus d'adoption locale, bien, ils ont moins besoin d'aller à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup à cause de la réalité des pays d'origine qu'on voit l'adoption en baisse.
Il y a un auditeur ou une auditrice qui me demande, est-ce que les couples gays peuvent adopter à l'international? La réponse, c'est oui, mais ça dépend des pays. Est-ce que je me trompe?
La réponse, c'est oui, mais ça dépend, je dirais, du pays. Il y a un seul pays, malheureusement, qui a cette ouverture-là, qui est la Colombie. Donc, on est très loin là d'une grande ouverture au niveau de l'international. Donc, en Colombie, les couples homosexuels peuvent adopter. Il y a certains pays qui vont accepter également des candidatures de parents célibataires, comme le Vietnam, par exemple.
D'accord. Et est-ce que... Alors, rappelez-moi, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais dans les années, je dis ça à vue d'œil, là, je pense les années 90, peut-être fin 80, début 90... Si je me trompe pas, il y a eu des années où les Québécois ont adopté, c'était vraiment beaucoup d'enfants, là, plusieurs milliers d'enfants chaque année qu'on adoptait à l'international, n'est-ce pas, Anne-Marie Morin?
Ah, j'ai pas le chiffre en tête, malheureusement, là, mais c'est plus de 800. Là. Donc, on a coupé énormément là, la dernière année. Ben, vous l'avez vu avec la pandémie. Il y en avait seulement une soixantaine les années précédentes. Depuis quelques années, là, on est toujours autour de 100, 120. Donc, on se maintient dans ces eaux-là. Donc, ça a été grandement, grandement diminué,
100,
effectivement.
100, 120, dites-vous, par année?
Oui, exactement. Alors, puis il y a des années, bon, 150, là, mais oui. Je dirais que ça ne monte plus tellement en haut de ces chiffres-là, hors pandémie.
Alors, oui, hors pandémie, bien sûr. Alors que vous dites qu'il y a eu des années par le passé, c'était jusqu'à 800 par année. On n'a jamais dépassé le chiffre de 1000?
Probablement que oui. Je représentais pas la fédération avant, donc j'ai pas tous les chiffres en tête, mais sur les statistiques du secrétariat à l'adoption internationale, là, certainement que oui. Donc, au Québec, on a plus de 20 000 adoptés de l'international, donc il a bien fallu qu'ils arrivent. Donc on en a beaucoup.
C'est ça le chiffre? On a plus de 20 000 enfants qu'on a adoptés au fil du temps au Québec, oui, à l'international.
Oui, absolument. Il y en a plusieurs qui sont adultes aussi aujourd'hui, là, donc vous avez raison là, de dire qu'on en a quand même accueilli plusieurs, mais ça fait plusieurs années là, que c'est difficile et que les chiffres sont très petits, donc peu d'élus. Disons qu'à la fête des mères, on a toujours une pensée pour ses parents puis ses mamans en attente là, qui attendent plusieurs années avant d'avoir leur enfant maintenant.
C'est ma dernière question d'ailleurs. Combien de temps ça prend en moyenne le processus d'adoption? C'est un auditeur ou une auditrice qui me pose la question.
C'est variable dans tous les pays, donc c'est difficile à dire, là, mais je vous dirais rapidement entre un an puis 10 ans. Quand on va en Chine, là, ça peut être très, très long. Donc, c'est vraiment de s'informer là, pour chacun des pays auprès des différents organismes agréés, parce que vous savez qu'il y a depuis plusieurs années au Québec, il n'y a pas d'adoption privée. Tout se fait là, avec des organismes qui s'assurent que les processus sont rigoureux.
Voilà. Anne-Marie Morel, présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Mais ça me fait plaisir, merci.
Et bonne chance avec votre petit Liam et le reste de la maisonnée. Salut.
Merci beaucoup, bonne journée.
Et si vous n'avez pas vu la photo dans le reportage de Catherine Anfield, la photo de Julien Hudon, Léa Gosselin et Diamondra Simone, la petite, donc qui sont allées chercher au Madagascar. Écoute, ça vaut 1000$, comme on dit. La fierté de ces parents-là, là, le regard, ils sont tellement heureux d'avoir pu réaliser leur rêve de fonder une famille parce que Léa ne pouvait pas pour des raisons de santé. Donc, ils ont décidé d'aller chercher un enfant au Madagascar. Et écoute, cette photo-là, vraiment, là, et qu'ils sont heureux, ces parents-là, c'est absolument magnifique. OK, on s'en va à la pause. Au retour, on s'en va à Lac-Mégantic, le nouvel épicentre de la pandémie au Québec.